Jésus lui-même a parlé de son retour dans l'Évangile. « Je reviendrai », a-t-il affirmé, « et je vous prendrai avec moi, afin que, là où je suis, vous y soyez aussi. » Vous pouvez lire ce verset sous la plume de Jean, au chapitre 14 et au verset 3 de son Évangile. Les anges aussi en ont parlé, au jour de l'ascension du Christ dans les cieux. C'est aux disciples qu'ils l'annoncèrent sur le mont des Oliviers, là même où le Christ posera les pieds au jour de son retour. Ceux-ci l'avaient vu partir, monter vers son Père, et alors qu'ils étaient là, les yeux fixés au ciel, deux anges leur apparurent pour leur dire « Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu, allant au ciel. » Les apôtres également en ont beaucoup parlé, tel Paul qui écrivit par exemple aux Thessaloniciens dans sa première lettre au chapitre 4 à partir du verset 16 « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. » Nous avons hâte, chers auditeurs, que cet événement ait lieu, car le Christ est notre seule espérance, il est l'espoir du monde. Le Saint-Esprit, enfin, de concert avec l'Église, dit qu'il vient dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22 et au verset 17. Et deux versets plus loin, le Christ met un terme à la Bible en ces mots « Oui, je viens bientôt ». Et pourquoi revient-il ? Pour prendre à lui ce qui lui appartiennent, ceux et celles qui ont mis leur confiance en lui pour leur salut. Possédez-vous cette espérance, cher auditeur ? C'est une espérance vivante, une espérance qui ne trompe pas, dit la Bible, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Oui, une espérance qui ne trompe pas, car celui qui a fait la promesse est fidèle. La voulez-vous ? Placez donc votre confiance en Jésus-Christ, recevez sa parole en votre cœur et cette espérance vous habitera. Il vous faut savoir que ce sujet du retour du Christ tient une place importante dans les Écritures, et ce, dans l'Ancien Testament aussi. Tenez, par exemple, cette affirmation du prophète Zacharie au chapitre 14, qui dit que les pieds de l'Éternel se poseront en ce jour sur le mont des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem. Mais l'Éternel n'a pas de pied. Il ne peut en avoir qu'en Jésus-Christ, quand il s'est fait semblable à nous. Comparons ce texte au chapitre 14 du livre de l'Apocalypse, qui commence avec ces mots « Je regardais, dit saint Jean, et voici, l'agneau, c'est-à-dire le Christ, se tenait sur la montagne de Sion. » Ces deux textes, se situant le premier dans l'Ancien Testament, le second dans le Nouveau, nous entretiennent d'un seul et même événement. C'est là un exemple frappant entre beaucoup. Et savez-vous que les prophéties concernant la première venue du Christ sur la terre il y a 2000 ans, à commencer par sa naissance à Bethléem jusqu'à son ascension, se sont toutes accomplies dans un détail à nous couper le souffle. Jésus n'était pas encore sur la terre que déjà les prophètes de l'Ancienne Alliance l'annonçaient. Ésaïe précisait que c'est d'une vierge qu'il naîtrait, en ces termes. « Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et lui donnera le nom d'Emmanuel. » Ce nom signifie en hébreu « Dieu parmi nous ». Cet enfant donc, dans la bouche du prophète, devait naître d'une Vierge et s'appeler « Dieu parmi nous ». Quoi de plus clair ? Et cet événement a eu lieu comme l'a dit l'homme de Dieu. Michée, pour sa part, bien des années avant l'ère chrétienne, précisait la ville où devait naître le Christ. « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Jérémie, lui, parle du massacre des enfants par Hérode au chapitre 31 de son livre. Zacharie, que nous citions tout à l'heure, va jusqu'à prédire que Jésus, au jour des rameaux, rentrerait à Jérusalem, je le cite, « sur un âne ». Le petit d'une ânesse, au chapitre 9 de son livre, il dit encore que le Christ serait vendu pour 30 pièces d'argent et que ses disciples l'abandonneraient. Les psaumes ont annoncé la crucifixion et le martyre du Christ dans un détail impressionnant, tout y est, les pieds et les mains percés, le fiel et le vinaigre, la tunique tirée au sort, etc. Quant à Ésaïe, toujours avant la venue du Christ, il nous entretient longuement du sens de la croix, surtout au 53e chapitre de son livre. Jugez-en par les extraits suivants. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a été opprimé et maltraité. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Il n'a point ouvert la bouche. Et qui plus est, cher auditeur, sa résurrection et son ascension sont aussi dans l'Ancien Testament, au psaume 110 par exemple, où David dit ce qui suit, « Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. » Plusieurs siècles après cette parole, saint Marc écrivait à la fin de son évangile, « Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. » Mais quelle exactitude dans les paroles de ces anciens prophètes! On a comme l'impression qu'ils ont été les témoins oculaires des événements saillants qui ont marqué la vie du Christ. Tant ils sont précis, il n'en est rien, puisqu'ils vécurent bien avant la venue du Sauveur sur la terre, et leurs prophéties se sont réalisées à la lettre. C'est encore là la preuve que la Bible dit vrai, et de même que ce qui a été annoncé concernant la première venue du Christ sur la terre s'est passé, de même, tout ce qui touche à son retour se réalisera. Oui, « Je viens bientôt, dit Jésus. Êtes-vous prêt, cher auditeur, pour ce grand événement qui est l'espoir du chrétien sur cette terre? Comment s'y préparer, dites-vous? Eh bien, en mettant votre vie en ordre avec Dieu. Le Christ est mort pour cela. Croyez-vous qu'il a donné sa vie et son sang pour le pardon de vos péchés et pour que vous ayez une vie nouvelle en lui? Si oui, prenez donc sa main, maintenant. » Et espérez en lui, vous n'en serez pas déçus. Au contraire, une espérance vivante éclairera votre existence présente et tout votre avenir. N'hésitez plus. Chers amis auditeurs, nous disions la dernière fois que c'est avec force détail que l'Ancien Testament avait annoncé la première venue du Christ sur la terre de Palestine il y a 2000 ans et que toutes ces prophéties ont connu une pleine réalisation. Le Nouveau Testament, pour sa part, annonce avec tout autant de détails et de force la seconde venue du Christ, c'est-à-dire son retour. Cette prophétie est très abondante dans les écrits d'apôtres tels que saint Paul, saint Pierre ou saint Jean. Pourquoi ne connaîtrait-elle pas, comme celle des anciens prophètes, un plein accomplissement? Ceci ne fait aucun doute, car c'est le même Dieu qui a inspiré ses serviteurs, qu'ils soient de l'ancienne ou de la nouvelle alliance. Et puis Jésus a dit lui-même dans l'Évangile qu'il reviendrait prendre à lui ceux et celles qui lui appartiennent, ceux et celles qui espèrent en lui de toute leur force. Êtes-vous de cela, vous qui écoutez en ce moment? Si le Christ ne devait pas revenir comme il l'a dit lui-même, et comme d'autres après lui l'ont affirmé, le Nouveau Testament est alors la plus grande supercherie de tous les temps. Le Christ lui-même le plus grand imposteur que la terre ait jamais porté. Mais dites-moi, pouvez-vous penser un instant que le Christ ait voulu nous tromper, nous endormir avec des fables? Était-il homme à cela? N'a-t-il pas dit « Je suis la vérité » S'il est quelqu'un dans lequel nous pouvons faire totalement confiance, c'est bien lui. Le Christ n'a jamais déçu personne. Il est arrivé que des religions, des chrétiens aient déçu, jamais le Christ. « Je reviendrai, a-t-il dit, et vous prendrez avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » De quelle manière son retour s'effectuera-t-il? Paul l'apôtre nous en donne le détail dans sa première lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 4, et des versets 16 à 18. « Car le Seigneur lui-même... à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, dit-il, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ce sujet du retour du Christ lui tient tellement à cœur qu'il occupe les derniers versets des saints chapitres de cette première lettre aux Thessaloniciens. Ces textes que j'ai souvent lus me touchent toujours au plus profond de mon être, car ils sont et renferment toute mon espérance. Tout vrai chrétien doit vivre dans l'attente de son Sauveur. Cet événement sera soudain, inattendu, dit Jésus, en ces termes. Le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas, à l'heure où vous serez occupé à bien manger, à bien boire, à l'heure où vous serez absorbé par vos affaires, par vos soucis. Ce jour viendra à l'improviste, comme un coup de filet sur tous les habitants de la terre. C'est pourquoi, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. L'apôtre Paul, cette fois dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, décrit ce qui suit. « Voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un atome d'instant, en un clin d'œil. Oui, cher auditeur, pas le temps de faire ouf. Et tous les chrétiens partiront dans un temps plus court qu'une seconde. En un atome d'instant, dit l'apôtre, pas le temps de saluer ses amis, ses collègues, son entourage, ses bien-aimés, pas le temps de dire au revoir. Les chrétiens, les vrais, ceux qui le sont de cœur et non d'étiquette, partiront subitement à la rencontre de leur Sauveur en personne, venant à eux sur des nuées. En ce jour-là, dit le Christ, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Quelle injustice, avez-vous envie de crier? Mais pas du tout. Ceux qui resteront sur la terre en ce jour-là l'auront bien voulu. Ils ne s'en prendront qu'à eux-mêmes pour avoir rejeté le salut que le Christ leur avait offert. La Bible dit qu'ils passeront par des temps difficiles, horriblement difficiles, comme la terre n'en a pas encore connu. Plus difficile que ceux d'Hitler, le monde passera sous la botte d'un antichrist qui règnera sur la terre tout entière. Cet homme, un peu à la façon de l'ex-fourreur, se fera adorer de tous. Des temps de grandes épreuves et de grandes souffrances viendront sur le monde, au point que certains rendront l'âme de terreur, dit Jésus. Il nous appartient de choisir dès aujourd'hui celui que nous voulons suivre, le Christ ou l'antichrist, dont l'Esprit déjà agit sur la terre. Pour ceux qui partiront dans ce jour extraordinaire du retour du Christ, Dieu lui-même, est-il écrit, oui, Dieu lui-même, essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Pour eux commencera une éternité de joie, de paix, d'amour et de bonheur dans la présence de celui qu'ils ont reçu dans leur cœur par la foi. Aujourd'hui, ils lui font confiance sans l'avoir vu, sans le voir encore. Dans ce jour, ils le verront pour vivre éternellement avec lui. Êtes-vous de cela? Mais où sont-ils, dites-vous? Ils sont partout sur la terre, peu importe la dénomination chrétienne à laquelle ils appartiennent. Ce n'est pas le titre ni l'étiquette qui sauve, c'est la foi, la confiance qu'on place dans le Christ mort pour ses péchés et vivant pour soi. Et parce qu'il est vivant, dit la Bible, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. L'aimez-vous, cher auditeur, lisez-vous sa parole, l'attendez-vous comme il vous le commande lui-même, avez-vous hâte qu'il revienne? Et s'il revenait aujourd'hui, maintenant, faites le point et soyez sauvés, Dieu vous y aide. À bientôt. Si le Christ ne nous a pas donné de date pour ce qui est de son retour, il nous a donné des signes, et entre autres signes, celui du déclin de la foi, face à une explosion du péché et de l'immoralité. Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se sera refroidie. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ceci nous fait comme froid dans le dos, cher ami auditeur, car nous n'avons jamais, comme aujourd'hui, connu un tel recul de la foi. Les églises se vident, de leur jeunesse surtout, et on en voit même qui se vendent. La génération qui monte est une génération de sans-Dieu. Les forces de séduction sont énormes, la crainte de Dieu n'est plus. Un théologien russe a dit « Si Dieu n'existe pas, tout est permis ». Et c'est parce que nous nous débarrassons de Dieu que nous sombrons dans une société corrompue et pourrie. Ces temps que nous vivons en ce moment ont été annoncés par les apôtres, tels que Paul, par exemple, qui a écrit à Timothée, « Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront maître sur maître, selon leurs désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Ils deviendront égoïstes, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. » Voilà ce que produit notre société matérialiste qui ne veut plus de Dieu dans ses affaires. À lire ces textes écrits il y a 2000 ans, il semble que l'apôtre parlait de notre génération, ne trouvez-vous pas ? Dans les derniers temps, dit-il encore, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. On ne peut, cher ami auditeur, abandonner Dieu sans se donner d'autres maîtres. Voilà pourquoi tant d'hommes, tant de femmes s'orientent vers les sciences occultes et le spiritisme et l'astrologie. Il est incontestable que ces choses représentent aujourd'hui un fait de société, faisant la une d'émissions de pointe à la radio et à la télévision. L'occultisme avance à pas de géant et ses adeptes se chiffrent par millions. Ne croyez pas qu'il s'agisse là d'une petite affaire sur laquelle nous n'avons pas à perdre de temps, loin de là. L'Institut national des statistiques en 1962 indiquait qu'en France seulement, il y avait 34 000 astrologues. Aujourd'hui, il dépasse en nombre celui des médecins, des prêtres et des pasteurs réunis. L'horoscope est partout, dans les journaux, à la radio, la télévision, dans plusieurs grands magasins et magazines. La loterie nationale ou le loto national dans certains pays présentent régulièrement leur tranche du zodiaque. Une astrologue de renom en Europe a reçu en un après-midi, au cours d'une émission radio, quelques 30 000 coups de téléphone, imaginez. Et quand on sait que de hautes personnalités du monde politique, scientifique, sportif et même religieux consulte les astrologues, il ne fait plus aucun doute qu'il s'agit là d'un fait de société. D'ailleurs, l'occultisme a permis la naissance d'une discipline nouvelle, la parapsychologie, qui est une approche scientifique des phénomènes mystérieux. Pour la Bible, le spiritisme, l'astrologie, les sciences occultes, d'une manière générale, font partie de ces esprits séducteurs et de ces doctrines de démons dont parle l'apôtre. Que de mal ces arts occultes procurent à notre génération, c'est épouvantable. L'homme aujourd'hui n'est plus religieux, mais superstitieux. La superstition est une déformation du sentiment religieux, inné chez l'être humain. L'homme, par nature, a besoin de satisfaire un besoin religieux profond. En s'orientant ailleurs que vers Dieu, il entre dans la superstition qui n'est autre chose qu'une religion fiction qui l'égare et l'aliène davantage. C'est pour notre bien que Dieu dit dans sa parole au livre du Deutéronome et au chapitre 18 qu'on ne trouve chez toi personne qui exerce le métier de devin, de magicien, d'astrologue, d'augure, personne qui consulte même ce qui évoque les esprits ou dise la bonne aventure, qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Cher ami qui m'écoutez en ce moment, cette vague d'astrologie, de spiritisme est un signe des temps. Elle est la preuve que la génération actuelle refuse Dieu pour des sources de néant, qui ne désaltèrent pas, au contraire, qui empoisonnent l'existence, la tuent. Le Christ revient. Les signes dont il a dit qu'ils accompagneraient son retour sont là à présent, évidents, clairs, indiscutables. Quittons ces pratiques occultes qui nous font tant de mal. Allons à la rencontre du Christ qui seul peut donner joie, paix et grande sécurité. Si vous aviez été atteint en quoi que ce soit par quelque influence occulte, demandez pardon au Christ et n'y revenez surtout pas, car c'est aussi pour cela qu'il est mort sur la croix du calvaire. Le sang de Christ, dit la Bible, nous purifie de tout péché. Mettez votre vie en ordre avec Dieu sur ce plan, si besoin était. C'est ainsi que vous trouverez paix et repos pour votre cœur. La Bible dit que le Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, mais qu'il apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Êtes-vous de ceux-là, de ceux qui l'attendent pour leur salut? Puissiez-vous l'être dès aujourd'hui. Le retour du Christ a fait couler beaucoup d'encre et il est à l'origine de bien des sectes pernicieuses qui ont fait beaucoup de mal au christianisme. Pourtant, cette doctrine est dans la Bible. Le Christ a dit lui-même qu'il reviendrait. Alors pourquoi la naissance de toutes ces sectes à partir de là? Tout simplement que certains ont essayé de donner une date à ce retour. Et ce, malgré cette affirmation du Christ, pour ce qui est du jour ou de l'heure de mon retour, personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Tous ceux qui ont tenté de situer le moment de cet événement ont été confondus. Certains l'ont attendu dès 1844, sûrs qu'ils étaient de leur date. Et comme rien ne s'est passé, ils l'ont à nouveau situé pour 1874, enfin pour 1974. Et comme toujours rien ne s'était produit, ces gens durent trouver une façon d'en sortir par des interprétations le plus souvent aberrantes pour garder la face devant ceux qui leur faisaient confiance. C'est ainsi qu'a pris naissance la secte des témoins de Jéhovah, par exemple. Mais pourquoi vouloir à tout prix fixer la date de ce retour quand Jésus a dit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, mais le Père seul ». Et qui plus est, quand on pense que d'autres encore se disent être le Christ revenu sur terre, mais quelle folie! Le gourou Maharaji, par exemple, qui pense que, comme le Verbe s'est incarné une première fois en Jésus-Christ il y a 2000 ans, c'est en lui, le gourou, qu'il s'est incarné une seconde fois. Il ne se dit pas le Christ très exactement, mais néanmoins lui, par le Verbe interposé. Vous n'y comprenez rien, moi non plus, mais nous pourrions lui poser la question. Pourquoi ne tenez-vous pas le même langage que le Christ de la Bible, monsieur le gourou? Le Verbe aurait-il changé d'avis, de message, jusqu'à se contredire lui-même? Et ce certain monsieur Moon, il est sûrement dans la lune celui-là, à penser que ce que Jésus n'a pu réussir, lui devra le faire à sa place. Il se nomme lui-même le Seigneur du second avènement, avec pour objectif de faire aboutir une mission à laquelle, je le cite, « Dieu lui-même ne croyait plus ». Mais rien d'étonnant à cela, cher ami auditeur, puisque Jésus lui-même nous a avertis que dans les derniers temps, de faux Christ apparaîtront. Jugez-en par ces versets de l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 24. « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ ». Ils séduiront beaucoup de gens. » Ces textes d'une grande autorité font partie de tout un chapitre touchant à la fin des temps. Les faux Christs qui prolifèrent en ce moment dans le monde sont un signe des temps, et le Seigneur Jésus a pris soin de nous mettre en garde à cet égard. Nous lui en sommes très reconnaissants. Et Monsieur Georges Roux, du petit village de Montfavet, du Midi de la France, c'est au cours de la nuit de Noël 1950 qu'il aurait reçu la révélation de la mission qu'il devait entreprendre pour remédier aux échecs de Moïse et de Jésus. Voici, en quelques termes, comment ses disciples le présentent, je les cite. « Dieu lui-même, l'infini, s'est créé une forme humaine. Il s'est directement manifesté à Montfavet, afin de se mettre à la portée de sa créature, tout en lui laissant entière liberté. Celui qu'on nommait Monsieur Georges Roux est en vérité Dieu lui-même. Mais où donc est-il écrit dans la Bible, cher auditeur, qu'à son retour le Christ serait français, coréen ou hindou? Les statistiques donnent aujourd'hui un faux Christ tous les 10 ans. Imaginez. Il n'est jamais dit dans les Écritures que le Christ reviendrait en naissant d'une femme, comme il le fit une première fois de la Vierge Marie, mais ce qu'il reviendrait subitement, comme un voleur dans la nuit pour prendre à lui ce qui lui appartienne. Il est encore précisé au chapitre 4 de la deuxième épître aux Thessaloniciens que le Seigneur lui-même, c'est-à-dire en personne, descendra du ciel, et ce non dans la personne de quelqu'un d'autre. Saint Luc, dans le premier chapitre des Actes des Apôtres, a écrit qu'il viendra de la même manière que ses disciples l'ont vu aller au ciel. Alors, messieurs Roux, Moon, Gourou et compagnie, êtes-vous descendus des cieux sur des nuées, comme dit l'Écriture? Heureusement que la Bible est là pour nous éclairer sur toutes ces questions. Elle nous encourage à attendre le retour du Christ, du vrai Christ, né à Bethléem, voilà 2000 ans, de la Vierge Marie, mort pour nos péchés sous Ponce Pilate, ressuscité des morts pour nous donner une espérance vivante, un salut éternel. Ceux qui se laissent séduire par les faux Christ manifestent qu'ils n'ont jamais rencontré le vrai Christ, celui que les Écritures nous présentent et qui seul peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Ceux qui l'ont connu l'attendent pour leur salut. Il est leur espérance. Voici, dit-il, je viens bientôt. L'avez-vous rencontré personnellement, cher ami auditeur? Est-il dans votre vie, dans votre cœur? A-t-il purifié votre âme de ses péchés? Avez-vous reçu son pardon et la vie éternelle qu'il accorde à quiconque se confie en lui? Alors seulement vous pourrez dire avec Pierre l'apôtre, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre ni souiller, lequel vous est réservé dans les cieux. Oui, il vient bientôt. Attendez-le avec nous, cher ami, en plaçant votre confiance en lui. Votre horizon se dégagera, et vous trouverez dans cette espérance vivante la force de vivre une vie nouvelle pour Christ. » Dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15 et au verset 51, l'apôtre Paul dit ce qui suit à propos du retour du Christ. « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. C'est à l'enlèvement, au rapte de l'Église par son chef, le Christ, qu'il fait ici allusion. Dans ce jour-là, tout chrétien, qu'il ait quitté cette terre ou non, entrera dans la plénitude de la rédemption, la pleine consommation de son salut. » Et le même apôtre décrit aux Philippiens au chapitre 3, « Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Et pourquoi serons-nous ainsi changés et transformés jusque dans nos corps? Parce que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, dit la Bible. En effet, ces corps que nous avons en ce moment ne pourraient supporter l'écrasante puissance de la gloire et de la majesté du Christ, ni même recevoir la plénitude de sa vie, l'intensité de la lumière, de la beauté, de la sainteté du royaume de Dieu est telle que nous en craquerions, que nous en mourrions même, si nous devions y entrer tels que nous sommes. Dieu adapte chaque créature à son environnement. Il n'y a que l'eau qui puisse satisfaire un poisson. Voilà pourquoi le dicton « heureux comme un poisson dans l'eau ». L'oiseau n'est lui aussi à l'aise que dans les airs, et l'harmonie d'un être quelconque à son environnement procure du bien-être. La Bible dit que toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi, dit-elle, des corps célestes et des corps terrestres. Dieu donc adapte chaque créature à son cadre, à son contexte de vie, à son environnement. Ces corps que nous avons en ce moment conviennent à une vie terrestre. Ils ne sont pas propres au royaume de Dieu. Ils ne pourraient le supporter. Le chrétien, bien que vivant de toutes ses forces dans l'espérance du royaume éternel de Dieu, reste un terrien tant qu'il est dans ce corps reçu à sa naissance. Et ce corps ne peut hériter du royaume. Voilà pourquoi le changement promis par la Bible au jour où le Christ reviendra. Ceux d'ailleurs qui ont perçu de leurs yeux d'ici-bas quelque chose de la gloire de Dieu ont été rudement secoués. Cette vision leur fut insupportable. Pensons à Daniel qui fut malade plusieurs jours après ces visions. Pensons à Moïse, à Ézéchiel, lesquels ne purent supporter l'intensité de la gloire du Dieu qui les approchait. Saul de Tarse sur la route de Damas a été frappé de cécité pour un seul coup d'œil sur la gloire du Christ dont il ne voulait pas. Quant à l'apôtre Jean sur l'île de Patmos, il tomba comme mort devant la splendeur du Christ ressuscité, rentré dans sa gloire. Ce que Dieu promet à tout chrétien, c'est un corps spirituel, lequel sera tout à fait à l'aise et à sa place dans le royaume de Dieu et la présence du Christ. Ce corps sera celui que nous avons en ce moment, mais glorifié, rédempté. Il ressemblera à celui du Christ après sa résurrection. C'est Jean l'apôtre qui l'affirme en ces termes. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables au Christ, parce que nous le verrons tel qu'il est. Ce texte que vous pouvez lire chez vous se trouve dans la première épître de Saint Jean, au chapitre 3 et au verset 2. À l'heure où beaucoup parlent de changement, dites-moi, mais que nous propose-t-on comparé à ce grand changement ? Voici, dit l'apôtre, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Cela reste un mystère, bien évidemment. Vous l'expliquez davantage, je ne le puis. Mais Dieu qui est fidèle ne manquera pas de réaliser sa promesse. Dites, cher ami qui m'écoutez en ce moment, vivez-vous de cette espérance, attendez-vous ce glorieux événement. Votre horizon en est-il tout illuminé ? Cette espérance pourrait vous habiter dès aujourd'hui si vous mettez votre confiance en Christ pour qu'il vous sauve. Seuls les sauvés, les rachetés de l'Éternel possèdent cette espérance. Ceux-là sont des êtres humains comme les autres. Ils ne sont pas sauvés parce que meilleurs que les autres, loin de là. Ils sont sauvés et ils le savent parce qu'ils ont cru au Christ mort pour leurs péchés et ressuscité pour les rendre justes devant Dieu. Sachez, cher ami auditeur, que le royaume de Dieu et du Christ sera rempli de pécheurs, mais de pécheurs sauvés par grâce. Jésus dit dans l'Évangile, « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Si vous vous savez pécheurs, il y a de l'espoir, car le Christ est alors venu pour vous. Il vous suffirait donc de le lui dire, de lui confesser vos péchés qui vous perdent. Vous recevriez alors le pardon total de vos péchés et une vie nouvelle qui vous mettrait au nombre de ceux qui attendent le retour de leur Sauveur. Pour la plénitude de leur rédemption, vivez d'espérance et soyez sauvés. Bon courage. Thank you. Le chrétien, même âgé, n'attend pas la mort mais le retour de son Sauveur. Cette espérance brûle en lui sans cesse, et même si la mort venait l'interrompre dans son attente, il a l'assurance qu'il ne manquera pas pour autant le grand rendez-vous de ce retour, car dans ce jour, est-il écrit, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, les vivants qui seront restés sur la terre seront tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi seront-ils toujours avec le Seigneur. Que nous mourions donc, dit l'apôtre, ou que nous soyons sur cette terre, au moment de son retour, s'il nous trouve dans la foi en lui, il nous enlèvera à lui pour toujours. Certains pourraient nous dire, mais comment pouvez-vous croire pareille chose? Ça paraît aberrant. L'enlèvement est une pure folie. Vous êtes en train de vous bercer d'illusions, de rêves. À cela, nous répondons qu'il s'agit d'une promesse du Christ lui-même. Il a engagé sa parole sur cette question, et il est la vérité. Nous lui faisons confiance. Et de même que nous avons cru en lui pour notre salut, il a notre confiance pour ce qui est de son avènement. Et puis, l'enlèvement de l'Église ne sera pas un événement isolé dans l'histoire. La Bible nous fait savoir qu'Énoch, homme de Dieu, des générations qui ont commencé de peupler la terre, fut enlevé au ciel et qu'il ne connut point la mort, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Qu'est-ce qui peut faire qu'on soit agréable à Dieu? La foi, c'est là la seule réponse, car sans elle, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, oui, sans elle, il est impossible d'être agréable à Dieu. Le prophète Élie fut lui aussi enlevé au ciel. Lisez donc cette fameuse histoire dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 2. Cet homme fut un homme de foi, à la vie toute consacrée à Dieu. Et pour finir, le Christ lui-même fut enlevé au ciel au jour de l'Ascension. Il fut enlevé pendant que ses disciples le regardaient, est-il écrit en acte 1. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Il ne fait aucun doute, cher ami, que cet événement aura lieu. Et Pierre, l'apôtre, écrit dans sa deuxième lettre, au chapitre 3, que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, avec des railleries, marchant selon leurs propres convoitises et disant « Où est la promesse de son avènement ? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. » Mais, poursuit l'apôtre, il est une chose que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Mais, dites-vous peut-être, nous pourrions attendre encore 1000 ans? Je ne le pense pas, car les signes avant-coureurs de son avènement sont là. L'angoisse universelle, la corruption et l'immoralité universelle, le déclin de la foi, la poussée matérialiste incroyable, l'explosion de violence, la famine, les tremblements de terre, la pollution, autant de signes dont la Bible nous entretient depuis 2000 ans et qui doivent marquer les derniers temps. À cela, bien sûr, certains objectent disant « Mais de tout temps de tels événements se sont passés, c'est bien vrai ?» Mais ils ont eu lieu de façon très localisée, tandis qu'aujourd'hui la violence, l'explosion d'immoralité sexuelle, la corruption, le déclin de la foi sont des phénomènes universels, mondiaux. Nous sommes en train de toucher à la fin d'une ère, et les temps sont si critiques qu'ils ont donné naissance à des sciences nouvelles telles que la prospective ou la futurologie, qui étudient scientifiquement l'avenir à partir des données présentes. Ces sciences jouent les prophètes, affirmant sans bavure aucune que la génération actuelle court un grand péril. Nous leur laissons bien sûr la responsabilité de leur réponse. Il n'empêche cependant que, de façon mathématique et logique, si notre monde continue d'aller ainsi, il est condamné et plus vite qu'on le pense. Le Club de Rome, par exemple, a lancé récemment cet avertissement « Le monde court à la catastrophe si les tendances actuelles se poursuivent ». Quant au futurologue Hermann Kahn, directeur de Hudson Institute, il travaille à ce qu'il appelle la Bible 2, un gros ouvrage s'inspirant des indications que lui confie un ordinateur. L'avenir de notre humanité est sombre, de gros nuages obscurcissent l'horizon. L'homme est en face de problèmes pour lesquels il n'a pas de solution, obstiné qu'il est, à ne pas vouloir de Dieu dans ses affaires. Dites, cher auditeur, est-ce là votre horizon ? Avez-vous perdu tout espoir ? Regardez au Christ, et l'espoir vous viendra. Votre avenir sera lumineux, vous vivrez dans l'attente de son retour, et cette espérance vous soutiendra jusqu'au bout. Vous aurez des certitudes pour la vie présente et celle qui est à venir. Ah, des certitudes, voilà ce qui nous manque très souvent. Sans certitude, c'est l'aventure, le cauchemar, le désarroi. Jésus dit dans l'Évangile, « Celui qui met en moi sa confiance a la vie éternelle. » Cette vie éternelle dont il parle, cher ami, n'est pas une vie à commencer après la mort ou au moment du retour du Christ. C'est une vie que l'on reçoit dès l'instant où nos cœurs s'ouvrent à lui dans la foi. Nous obtenons ainsi le pardon de nos péchés, de tous nos péchés, et une vie nouvelle qui n'aura pas de fin. Dites-moi, vous qui m'écoutez en ce moment, serez-vous enlevé à la rencontre du Christ au jour de son retour? Mais que faire, dites-vous? Confiez-vous de cœur en lui. Voilà qui sauve et donne cette certitude. Je veux croire que vous le ferez. Dieu vous y aide.